Je veux dire qu'à un moment, j'étais parti au fond et j'ai entendu quand même les paroles qui ont été dites, les textes qui ont été lus et aussi qui m'étaient adressés, à moins qu'il y ait un autre Jean. Bon. Mais même si ça avait été un autre, moi, ça m'a encouragé. Je propose de lire ensemble dans la première épître de Jean. Bon, déjà sur le chapitre premier entier, qui n'a que 10 versets, mais une partie aussi, sans doute, du chapitre 2. Pour commencer, les quatre premiers versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Dans certains manuscrits, votre joie soit complète. Quand l'apôtre Jean écrit ça, parce que nous, ces gens et d'autres avec lui. Quand l'apôtre Jean écrit ça, conduit par l'Esprit de Dieu, ça fait probablement plusieurs décennies que Paul avait écrit aux Corinthiens. Parmi vous, nous avons jugé bon de ne rien savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Peut-être, on peut se dire, mais où est le rapport? Mais c'est exactement ce qui est écrit ici. Parce que, bon, nous, ces gens et d'autres, ceux qui écrivent, mais ceux qui ont vu et touché en premier, c'est les 12 et puis d'autres disciples. Et ce qui était dès le commencement. De quel commencement est-ce qu'il s'agit ici? Alors, est-ce que c'est le commencement de Genèse 1? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, normalement, les 12, ils n'y étaient pas là. Ils n'ont pas touché, ils n'ont pas vu. Ok. Est-ce que c'est le commencement du début de l'évangile de Jean? Au commencement était le Verbe, c'est-à-dire avant la fondation de toute éternité. Non. Parce que là non plus, ni Jean ni les autres n'y étaient. Donc il reste quel commencement? L'incarnation. La venue de Jésus en chair. Et c'est pour ça qu'il y a cette insistance sur ce que nous avons entendu. Alors par exemple, Pierre a entendu André dire « Nous avons trouvé le Messie ». André, lequel était à ce stade-là disciple de Jean-Baptiste. etc. Donc ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et Jean écrira après, oui, probablement après l'évangile, la parole a été faite chair, et elle est venue habiter parmi nous. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, donc dans la Bible ce mot forcément il évoque une admiration du temps passé, des regards qui se lèvent, de la méditation, dans le cœur qui médite, c'est-à-dire qui repasse, hein, on repasse dans le cœur. Autrement dit, ce que nous avons contemplé, pardon, je vais essayer de finir une phrase avant d'en commencer une autre. C'est pas facile, hein? Pourquoi est-ce qu'il est écrit ce que nous avons vu? Et pourquoi est-ce qu'il est rajouté ce que nous avons contemplé? Donc, plus que probablement, parce que, pour dire, pour que l'auditeur, le lecteur, comprenne que quand Jean écrit ce que nous avons vu, il parle de quelque chose de divin. Et donc, quand quelque chose vient de Dieu, il ne suffit pas de le voir. Il faut le contempler. Et c'est l'essence même de la louange, de la confession de foi et même du témoignage. Comme il a été dit tout à l'heure, on aimerait être comme vous parce que vous êtes à fond avec Dieu. Autrement dit, ce qui nous donne envie d'être comme vous, ce n'est pas seulement que vous savez quelque chose de Dieu ou même que vous l'avez vu intervenir de temps en temps dans votre vie, mais c'est que vous êtes des contemplateurs de Dieu. Vous êtes tourné vers lui. Donc, ce que nous avons contemplé, et puis que nos mains ont touché. Alors, les propres mains de Jean et de pas mal d'autres, ils ont pris les 5 pains et les 2 poissons, et ils les ont brisés, ils les ont distribués. Mais ils ont aussi touché, après, dans le contact quotidien, des gens que Jésus avait transformés, des gens que Jésus avait guéris, Marie de Magdala de laquelle il avait chassé des démons, ce que nos mains ont touché. Tout ça, ça veut dire, il n'y a pas le mot « fils de Dieu incarné », mais incontestablement, c'est l'idée. C'est ce qui est d'en haut est venu parmi nous. Alors, je disais, quand Jean écrit ça, ça fait longtemps que Paul a écrit. On ne veut savoir rien d'autre que finalement le Fils de Dieu incarné, crucifié, ressuscité. Et vous avez, quelque part, vous avez besoin de savoir ça au sens fort du mot savoir. Non seulement plus que tout, mais par-dessus tout, avant tout, mais aussi, entendons bien, après tout. C'est-à-dire, je m'explique, quand on lit le début de 1 Corinthiens, on dit, mais c'est normal que l'apôtre Paul leur écrive ça, ils sont encore, tu te demandes s'ils ne sont pas encore à moitié païens là-bas dedans. Bon, lisez le début de 1 Corinthiens, voilà. Mais là, ça c'est écrit des décennies après. C'est écrit pour quiconque qui est disciple de Jésus à cette époque-là. Et donc, une grosse majorité de ces gens-là affermis dans la foi, qui suivent le Seigneur depuis des années ou des décennies. Et voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit la même chose que Paul a écrit à des débutants. Parce que ce que j'ai besoin de savoir avant tout, c'est que Christ est venu. Mais une fois que j'ai tout appris, ce que j'ai besoin de savoir après tout, par-dessus tout, comme couronnement de tout, c'est que Christ est venu. Les premiers mots de cet épître de Jean sont ce qui était dès le commencement, la venue de Jésus. Les derniers mots de cet épître de Jean sont petits enfants. Gardez-vous des idoles. Et le propre de l'idole, c'est qu'elle aspire vers elle le cœur, la confiance, l'espérance qui sont dues à Dieu. Et, comme c'est écrit ici, et à son Fils Jésus-Christ. Le sommet de l'idolâtrie sur la face de cette terre se verra sous la durée brève, probablement 3 ans et demi, d'après pas mal de textes de l'Apocalypse, sauf si c'est que des nombres figures, sera pendant le pouvoir du dernier Antichrist. Et dans le chapitre 2, je lis juste le 2:18, « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière, comme vous avez entendu. C'est l'heure dernière, voilà, parce que Christ est venu. » Du moment que Jésus est venu, c'est les derniers jours. Aujourd'hui, le jour du salut. Non. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Ensuite, comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, un au singulier, donc le dernier, celui qu'on appelle, quand on dit l'antichrist sans autre précision, celui que ça désigne et que Paul appelle l'homme d'iniquité, etc. Dans 2 Thessaloniciens 2. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc, il faut le comprendre, ça. Ça veut dire que depuis les premières décennies, jusqu'à la toute fin, il y a des antichrists qui sont des personnes, qui sont des courants, qui sont des doctrines, avec, donc, bien sûr, qui viennent par le père du mensonge, par des esprits mauvais, il y a plusieurs antichrists. Et d'ailleurs, voilà, il rajoute, par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Alors, pourquoi j'ai lu ça? Parce que, comment dire, sans être alarmiste, pessimiste, défaitiste, ou, enfin, vous comprenez, sans être abattu, nous devons tous savoir, vieux chrétiens, tout récent chrétien, nous devons tous savoir que l'essence du monde, l'ADN du monde, est antichrist. Alors d'où vient ce mot antichrist? Je pense l'avoir dit plusieurs fois, ici aussi. C'est l'apôtre Jean qui a forgé ce mot, tout simplement à partir d'une parole de son maître, Jésus, qui a dit « Il se lèvera de faux Christ ». Vous voyez? Et donc, c'est ça qui... C'est pas pour ça, premièrement, que Jean écrit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, vu, contemplé, touché, nous vous l'annonçons. C'est pas premièrement pour ça, mais c'est aussi pour ça. C'est-à-dire, bien évidemment, que Christ non seulement doit être l'autorité première pour vous, l'espérance permanente et sublime, mais... il est votre secours. Et plus vos yeux le contemplent et plus il occupe de place, moins les idoles, directement antichrist ou pas, toutes ne le sont pas directement, mais finalement ça revient à ça, moins les idoles auront de prise sur vous. Autrement dit, non seulement ce premier paragraphe, les 4 versets que nous avons lus, c'est le cœur de tout. Et c'est le chant éternel à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, louange, amen. Alors non seulement c'est le centre de tout, mais c'est l'antidote pour tout. Et quand Jean écrit au chapitre 2, verset, alors on a lu le 18, et bien c'est le 15, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » Donc le monde, Est-ce que ça veut dire tout ce qui est hors réunion chrétienne ou hors famille chrétienne? N'aimer pas le monde, est-ce que ça veut dire j'aime pas l'école? Bon, toutefois, j'aime bien l'équipe de France de rugby. Ça y est, là, j'ai ouvert un débat. Non, c'est le principe, c'est le courant du prince de ce monde. Et il dit bien après, il dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et donc, avant ça, Jean écrit, la deuxième partie du verset 15, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Alors là, tu... plus d'une fois dans ma vie, j'ai lu ce verset comme un divin soufflet, une claque. Plus d'une fois. Pendant que je le lisais, j'ai reçu une sainte gifle. Dieu donne des gifles. Pas beaucoup. Pas tout, pour ses enfants. C'est pas tous les quarts d'heure, c'est même pas tous les mois, c'est même pas... c'est pas à moi de dire, il fait bien ce qu'il veut, notre Seigneur. Mais de temps en temps, une petite gifle. En général, ça veut dire que ça fait 20 fois qu'il nous a dit la chose, ou 80 fois. Vous voyez, parce qu'il commence pas par la gifle. Hein. Bon, donc, mais il faut le lire ça quand même. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et vous savez qu'on peut aimer le monde en étant à plein temps dans l'Église? Si je suis dans l'Église à fond pour briller, si je veux briller, être admiré, ça vient du Père ou ça vient du monde? Et je peux le faire en prêchant, je peux le faire en priant, je peux le faire en chantant, je peux le faire en prophétisant. Et moi qui vous parle, je l'ai fait. Jeune, je l'ai fait. Pas premièrement, je ne prêchais pas premièrement pour briller, mais aussi pour briller. Je reviens au début, enfin au premier paragraphe que nous avons lu. Ce que nous, la vie éternelle. Et de cette vie éternelle, il dit juste une chose. Qui était auprès du Père. Tout est dit. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Remarquablement, le verset suivant parlera de la communion avec le Père et avec son Fils. Mais, remarquablement, c'est premièrement la communion qu'on appelle fraternelle, que l'Esprit-Saint fait écrire à Jean. Nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et ça, ça m'enseigne quelque chose d'extrêmement simple, mais de nouveau, plus c'est simple, plus c'est profond, et plus c'est premier, plus c'est dernier, c'est-à-dire ultime et permanent. Ça m'enseigne que qu'est-ce qui nourrit la communion entre toi et moi, c'est le fait de partager quelque chose qui est de Christ. Voilà ce que dit Jean. Il dit, nous avons entendu Jésus, ses œuvres, ses paroles. Nous avons vu, nous avons contemplé, nous avons touché et nous vous l'annonçons. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Il est très très peu probable qu'il faille lire ces versets uniquement avec l'idée que Jean écrit ça pour des gens qui ne sont pas encore convertis. Il dit, on vous annonce Jésus, vous vous convertissez, et puis du coup on est en communion. Alors ça n'exclut pas ce sens-là. Mais le premier sens, on le voit tout au long de l'épître, et on va le voir encore plus, hein. Sauf qu'il faut que je garde quand même un œil sur la montre, moi. Que vous soyez en communion avec nous. Je ne développe pas plus, mais ce mot communion, alors on en reparlera cet après-midi, pas mal, parce qu'en vérité, c'est la communion avec Dieu qui fait le, j'allais dire, où est le rapport entre ce qu'on lit ce matin et la question qu'on se posera cet après-midi, qu'est-ce que ça signifie être créé à l'image de Dieu ? Eh bien, le rapport, il tourne autour du mot communion. Que vous soyez en communion avec nous. Et donc, s'il y a communion entre toi et moi, en vérité, elle vient de plus haut. Et donc, or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Autrement dit, s'il y a horizontal, c'est parce qu'il y a d'abord vertical. Vous vous rendez compte ? Avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Alors, il y a ici cependant une précision à apporter, c'est que dans la Bible, communion ne signifie jamais fusion. Autrement dit, être en communion avec le Père ne signifie pas du tout que nous devenons Dieu. Être en communion avec Christ ne signifie pas du tout que nous devenons Christ. Et l'Église, dans son collectif, ne devient pas non plus Christ. Pour une simple raison, c'est que le Père et son Fils sont créateurs, par leur esprit aussi. Nous sommes créatures et nous restons dans l'éternité créatures. Il n'y a rien dans le texte biblique qui autorise à penser que le salut consiste à devenir divin. C'est une hérésie très ancienne, mais c'est une hérésie. Alors, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Peut-être l'un ou l'autre s'étonne de ne pas que Jean n'ait pas écrit « et avec l'Esprit Saint ». Alors vous allez me dire, mais tout, c'est pas obligé que tout soit écrit dans un verset, c'est sans doute écrit ailleurs. Non. Non. La Bible ne dit pas les mêmes choses du Père, en tout, ne dit pas toutes les mêmes choses du Père que ce qu'elle dit du Fils, et que ce qu'elle dit, ou plutôt à l'envers. Ne dit pas du Saint-Esprit toutes les choses qu'elle dit de Christ, ni de Christ toutes les choses qu'elle dit du Père. Voilà. Autrement dit, quand Jean écrit, ben le même Jean écrira un peu plus tard que l'Esprit de vérité, quand il sera venu, vous conduira dans toute la vérité. Ça ne signifie pas, il vous enseignera des choses que Jésus n'a pas dites. La suite de la phrase, c'est d'ailleurs, ces paroles ne viendront pas de lui-même. Alors pourquoi ça ne signifie pas ça ? Peut-être l'un ou l'autre se dit, bon, ben, on aime beaucoup Jean, mais c'est son avis. Moi, j'ai entendu d'autres prédicateurs dire autrement, avoir un autre avis. Alors, je vous suggère de ne vous aligner ni sur mon avis, ni sur l'avis de quiconque, mais sur les Écritures. Et l'idée que le Saint-Esprit ait pour mission de nous faire découvrir des choses inédites, c'est une idée étrangère aux Écritures. Sa mission est de nous appliquer le bénéfice de ce que Jésus a accompli, la croix, la résurrection, la parole, etc. Et puis, par divers dons spirituels, d'appliquer la volonté de Dieu dans nos vies. Mais la plénitude de la divinité corporellement habite en Christ. La même chose n'est pas écrite de l'Esprit, etc. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Ce qui, incontestablement, signifie qu'il n'y a pas de joie complète en dehors d'entendre, voir, contempler, toucher ce qui est de Christ. Bien entendu, par son esprit, sa parole. Verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, pardon, je le lirai tout à l'heure ça, un petit mot sur ce qu'on a lu, je ne m'arrête pas forcément sur tout là. De nouveau, on va dire, mais une grosse majorité de ces auditeurs-lecteurs sont chrétiens depuis longtemps, affermis, et dit, voilà le message. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Ben oui. Au tout début du catéchisme, tout le monde le sait. Et il rappelle que la communion, qui n'est pas fusion, qui n'est pas d'abord émotion, qui est convergence. De même que l'amour n'est pas premièrement émotion, mais premièrement volonté de bien. Donc, Jean rappelle que la communion va de pair avec la marche. La marche dans la lumière, la marche dans la vérité. Autrement dit, aimer Dieu et faire comme il dit, c'est la saine doctrine. Si je ne crois pas que Dieu est lumière, si je crois qu'il est imparfait, il y a un gros problème de doctrine, vous êtes d'accord ? Si je ne pratique pas la parole de Dieu, la vérité, il y a un gros problème de doctrine. Et donc Paul, par exemple, écrit ça à Timothée, il emploie le mot doctrine pour parler non seulement de l'enseignement, mais du comportement. Et quand on a doctrine en français, en général, c'est le mot enseignement. Autrement dit, pour Dieu, pour Jésus, pour les apôtres de Jésus, l'enseignement, ce n'est pas seulement ce qui est dit, c'est ce qui est fait. Je continue à lire. Peut-être un mot encore là, juste. Non, je continue à lire. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. 3 fois le mot péché. Alors de nouveau là, si on oublie où est le cœur, l'essentiel des choses, on pourrait interpeller, si on avait été là-bas, et interpeller l'apôtre et dire « Mais attends, mais t'as pas compris que les chrétiens, une fois qu'ils sont enracinés et tout, le péché, c'est plus leur problème. » Vous voyez ? Mais Jean, qui sait de quoi il s'agit, qui connaît Christ mieux qu'eux, qu'il l'a connu de plus près qu'eux, eh bien, il parle du péché. Ce qui implique que quand on va pas le lire aujourd'hui, mais quand plus loin, il dit au chapitre 4 ou 5, je ne sais plus, que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ça signifie quelque chose, mais ça ne signifie pas quelque chose d'autre. C'est un verset à ne pas tordre. Autrement dit, le chrétien qui clame « moi je ne pêche plus », comme disait quelqu'un il y a très longtemps, mais rien que de dire ça, ça y est, il y a déjà péché. Alors, quel est le problème dans les 3 versets qu'on a lus, là, 8, 9, 10 ? enfin dans deux, parce que celui du milieu, ça va. Si nous confessons nos péchés, là, ça va. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, verset 8, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, et déjà verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, le problème, si vous voulez, qu'est-ce que ça me... Ça, c'est une clochette, ou même un... Comment c'est les, quand il y a une urgence, là, le... Alarme, alerte, la sirène. Voilà, la grosse sirène. Là, il y a une sirène qui nous dit quelque chose, et elle nous crie, attention, attention, il y a le péché dans vos vies, oui. On va voir la suite montre même que Dieu le prévoit. Dieu sait qu'on tombera. Je le lis rapidement. Mes petits, au début du chapitre 2, mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Évidemment, c'est l'axe normal. Et si quelqu'un a péché? C'est prévu. Je ne dis pas que c'est voulu de la part de Dieu. Pas du tout. Mais il le sait. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Et donc, il est expiation, propitiation. Bon, désolé, là, je ne prends pas le temps de l'expliquer. Mais, voilà, par son sang, il efface nos fautes. Et Dieu nous est propice, nous est favorable. Alors, il y a le péché. Et une fois qu'on est en Christ, il se règle, j'allais dire, sans excessive difficulté. Dieu nous parle, il nous reprend d'une manière ou d'une autre, quelquefois à travers un frère, une sœur, ce qui est écrit. On écoute, normalement on se repent vite, des fois on s'entête, mais bon, on se repent, on confesse le péché et il nous pardonne. Alors, que nous crie la sirène? Qu'est-ce qu'elle crie la sirène? Elle crie, écoutez bien, faites attention, il y a un surpéché. Et le surpéché, c'est de dire qu'on n'a pas péché. Voilà, c'est le sens de ces versets. C'est pour ça qu'il y a une telle insistance, si nous disons que nous sommes en communion, mais que ouais, nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, la vérité n'est pas en nous. Oula, il dit ça à des chrétiens. Et puis de nouveau, si nous disons que nous n'avons pas péché, alors carrément là, c'est là, je tremble, nous le faisons menteur. Donc vous voyez, on est dans beaucoup plus grave que les chutes, les faux pas, les vous voyez, on pêche de diverses manières. Jacques explique que nous pêchons tous de diverses manières. Si quelqu'un ne pêche pas par sa bouche, ben déjà, alors là, c'est top. Hein. De même que nous avons eu trois fois le mot péché, là, en quelques versets, nous avons eu aussi trois fois le mot vérité, avec une lourde insistance. Pratiquer la vérité. Donc, ce n'est pas seulement la croire, là. Hein. Pratiquer la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est? J'avance. Je pense que je vais... Ça avance un peu là-bas, non? Oh, formidable. C'est vrai, ça avance. Une minute, non? Allez. Chapitre 2, verset 3. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. Oh là là, alors là, si vous aimez le Seigneur, si vous voulez être proche de lui, en communion avec lui, vous avez, là, il faut lever la main, il faut dire, ah moi, ça m'intéresse. Le critère pour savoir que j'ai connu Dieu, ça m'intéresse. Dis-moi quel il est. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Béaba du catéchisme. Mais parce que même celui qui est à Christ depuis 70 ans, il est encore en cours, il est encore à l'école du Seigneur. Et encore, plus loin, Jean écrira, nous savons que nous l'avons connu en ce que nous aimons les frères. Ça, c'est un signe, c'est un critère aussi, un signe fort. Et le fait qu'on obéit, quand on obéit à Jésus, à Dieu, ne serait-ce que un peu plus que hier, c'est un signe que tu le connais. Voyez ? Donc, il serait malvenu de dire, moi, je vais vous prouver que je le connais, je vais vous citer des paragraphes entiers par cœur, un autre va dire, j'ai fait ci, j'ai amené 80 personnes à la conversion, voilà, comme ça, vous voyez que je le connais, un autre va dire, Dieu m'a accordé tant et tant et tant de miracles, et comme ça, vous savez que je le connais. Alors, oui, ça fait partie, si vous voulez, mais ce n'est pas ça qui est écrit, ici. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Oh. Sincèrement, si on prêchait comme ça trois fois de suite dans une église, mais la moitié des membres nous demanderait d'arrêter. Ils diraient « écoute, je veux bien que tu prêches. À ceci, nous l'avons connu si nous gardons ses commandements, mais arrête de rajouter... Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, eh bien, ça, il ment. Arrête d'être négatif. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand il y a insistance dans les Écritures, ce n'est pas que l'auteur était énervé. Hein ? Ce n'est pas qu'il était exaspéré ou qu'il avait une mauvaise éducation qui était mal tournée. Alors, d'autant que l'auteur, quand même, suprême, c'est l'Esprit-Saint. Ah, donc là, et là, il se trompe, il n'y a pas d'erreur là. L'insistance, c'est toujours pour aider, c'est toujours pour, c'est l'insistance est utile. C'est ce que déjà Dieu fait dire à Moïse, par Moïse, aux parents en Israël, quand il dit que les paroles de l'Éternel s'éloignent pas de toi. Il dit, tu en parleras à tes enfants. Il dit, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, quand tu seras en voyage, dans la voiture, dans le train. Insister, répéter. Verset 5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Alors, oh, amour de Dieu parfait en quelqu'un d'imparfait. Ce qui est écrit, parce qu'il garde sa parole. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. De nouveau, les mots en lui ne signifient pas fusion mystique. Bien-aimé, verset 7. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Alors, parole de Christ incarné, pour nous, tout l'évangile, et etc. Mais dans la bouche de Jésus, parole de Moïse, parole de Daniel, parole d'Ésaïe, parole de David. Donc, écriture ancienne. Il faut le comprendre, ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien. D'autre part, là ça va être un peu difficile pour moi le premier, verset 8, d'autre part c'est un commandement nouveau que je vous écris. Quel est le sens ? J'ai pas fini de lire. Hein. Là, je fais ce qu'il faut pas faire. Réfléchir au sens avant d'avoir même fini la phrase. Vous voyez, des fois, quelqu'un discute avec vous, vous parlez, il vous coupe la parole et puis il vous dit ce que vous avez voulu dire. Alors, il finit, puis il vous dit, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Des fois, on fait ça quand on lit la Bible.
On coupe la parole au Seigneur et puis on démarre à fond. C'est un commandement nouveau. Alors genre, avant c'était la loi, maintenant c'est la grâce. Alors c'est vrai, mais dans un sens, pas dans un autre sens. Parce que puisqu'il continue à commander, vous comprenez ? Alors on finit la phrase. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et moi, le premier, hein, j'ai buté là-dessus, mais... Mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur ? Quel est leur... En quoi ça m'éclaire ? Parce que c'est censé expliquer que le commandement ancien, le même, il est nouveau aussi. Et en fait, qu'est-ce que ça dit, ça ? Les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. C'est-à-dire, celui qui est venu, qui s'est incarné, il vient. Et la perspective de sa venue rend complètement nouveau tout ce qui est ancien. Lui donne une acuité, une pertinence et un poids au-dessus de tout. Formulé autrement, en termes plus théologiques, la loi de Moïse lue sans Christ ne m'apporte pas le même bénéfice que la même loi de Moïse lue avec Christ. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Mince, voilà que ça le reprend. Ça y est, il nous fait une rechute de négatif. C'était beau ce qu'il nous disait là, un commandement nouveau, Jésus revient, ça transfigure tout, on est proche, vous voyez mais évidemment, je répète, le Saint-Esprit ne se trompe pas. C'est dans le domaine de l'amour fraternel que la nouveauté se, à la fois se vérifie, mais aussi est un défi. Alors, je prends un texte ancien. Je vais y aller d'ailleurs. Oula. Désolé, j'étais persuadé que je serais court, bref et concis. Vous voyez, quand même, même avec les cheveux blancs, on peut s'illusionner grave. Hein. Lévitique 19, verset 17, 18. 17. Alors, la fin, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Ton prochain, ici, ça veut dire ton frère israélite. Voilà. 17. « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je dois avouer que ça fait 50 ans que je lis les Écritures. J'avais jamais tiqué sur le fait que dans le contexte immédiat de Lévitique 19, quand c'est écrit « Tu aimeras ton frère », le premier défi, le premier enjeu, c'est ne pas se venger, ne pas garder rancune. Voyez ? Parce que est-ce que tu... Voilà, je ne dois pas prolonger, mais tu aimeras ton frère, ça ne veut pas dire chaque fois que tu le verras, tu seras ému aux larmes. Ça peut être ça. Ça ne veut pas dire, premièrement, tu le cajoleras sans cesse. Vous comprenez ? Surtout, des fois, peut-être il n'aime pas qu'on le cajole. Mais ça veut premièrement dire, c'est hein, l'amour, volonté de bien. Pas de rancune. Pas de vengeance. Et même pas de haine. Et au milieu de tout ça, il est dit, c'est étrange. auras soin de le reprendre. Je ne peux pas développer plus, là, je n'ai pas le temps de développer, mais ça fait partie de aimer. Voilà. Alors, mais sans pécher contre lui, pas le reprendre pour tes motifs à toi, ou peut-être aussi ça peut signifier ne pas participer à un péché, bon, je ne sais. Voilà, peut-être les deux. Mais voyez comment, voyez là, le gros enjeu, le gros défi d'aimer. Verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber ou de faire tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres ne sait pas, et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Alors finalement, c'est... Non, j'allais dire, c'est triste que je m'arrête sur ce mot-là, aveugle. Mais ça fait partie du message de Dieu par l'apôtre Jean. C'est-à-dire que même enraciné, des fois je suis aveuglé sur quelque chose. Et surtout sur moi-même. Voilà, la suite est tellement belle. Je lis sans commentaire 12, 13, 14. Et là, je m'arrête. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens. C'est-à-dire, je rajoute quelque chose. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen, Seigneur.